Ah, vous êtes là?
Ben, bienvenue, asseyez-vous, prenez un verre, et parlons d'architecture un peu. Alors déjà, je tenais à vous remercier parce que les dernières semaines ont été assez incroyables. Enfin, il s'est passé des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Et notamment en fait sur Instagram, où vous avez été très nombreux à répondre à mon dernier reel. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, beaucoup de personnes se sont abonnées. On est maintenant 4200 sur Instagram et plus de 350 sur YouTube. Donc, merci beaucoup de vous être abonnés. Et on va essayer de construire quelque chose de superbe ensemble. Alors, c'est le premier épisode de mon podcast Parlons d'architecture en solo. Pas d'invité cette fois-ci parce que, bon, soyons d'accord, tout le monde est en vacances au moment où je tourne. On est en août, donc je pense qu'on va faire un petit épisode à la cool. Je vous ai préparé un petit programme bien sympa. On va se poser. Et donc, je vais vous parler de plein de choses. Je vais vous parler de ma dernière vidéo, ce que j'ai appris, les choses que j'ai découvertes cette semaine, dont un article super intéressant de Archdaily sur le futur des cités africaines. Et surtout, ce que je vous avais promis sur mon reel, je vais répondre à vos questions. Les questions que vous m'avez posées sur Instagram et sur YouTube. Et on va essayer de... on va vraiment aller au bout des choses et faire quelque chose de vraiment sympa. Donc, on va commencer sur la dernière... je vais vous parler un peu du retour de la dernière vidéo qui a été géniale. Honnêtement, même à ma petite échelle, je suis très content d'avoir des gens vraiment intéressants qui me suivent. Les commentaires que vous avez laissés étaient top. Ça fait des points de discussion qui sont super intéressants. Et si vous l'avez regardé, ou si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller la voir. C'est la vidéo où j'explique les biais psychologiques qui nous influencent dans l'architecture. Et je me suis amusé avec un peu, avec des effets spéciaux, à changer un peu mon décor et le faire varier en fonction de ce qu'on voulait et en fonction de ce que je voulais montrer. Et franchement, je me suis pas mal éclaté dessus et apparemment, elle a l'air de plutôt plaire. Donc, très content que ça vous ait plu. J'ai aussi fait plusieurs reels sur Instagram et ça, c'était assez génial. Et ce qui serait plus intéressant, enfin, là, ce dont j'aimerais vous parler, c'est la prochaine vidéo où, vous savez, comme au début, j'aime bien dire la théorie, c'est bien, mais la pratique, c'est encore mieux. Et bien là, on va faire de la pratique dans les prochaines vidéos. Ce que je veux faire, c'est prendre des rues au Maroc, dans les villes de Rabat et de Casablanca. Et je vais les redessiner. Alors, j'ai juste envie d'expérimenter ce que peut donner une réinterprétation de l'architecture marocaine traditionnelle et d'aller sur une réponse plus vernaculaire et moins boîte bétonnée, classique, mal adaptée. Alors, l'idée, c'est vraiment d'essayer de reproposer quelque chose de plus adapté au climat, de plus adapté à la culture et juste faire ressortir un peu plus la culture marocaine. Et j'aimerais bien en faire une série. Ça devrait sortir la semaine prochaine. Donc on verra ce que ça va donner et puis j'espère que ça vous plaira. Et en fait, dans cette direction, j'ai scruté YouTube. Notamment, j'ai découvert la chaîne de The Aesthetic City, qui est une chaîne que j'aime beaucoup, qui parle en fait de l'importance de la beauté en architecture et surtout dans nos villes. Alors, le gars, de ce que je comprends, vient des Pays-Bas, donc il se concentre largement sur l'Europe, et notamment pas mal de villes. Et en fait, ce que j'ai adoré, c'est qu'il a fait une database Notion sur l'architecture classique, avec plein de ses références, des masterclass sur comment composer l'architecture classique. Et en fait, j'ai eu, pendant toute une semaine, une énorme passion. Enfin, j'ai plongé dedans, j'ai regardé un peu tout ce que c'était, je me suis remis au dessin. Si vous me suivez sur Instagram, normalement, vous êtes familier avec le Draw Every Damn Day que je fais. Et je m'éclate et j'ai envie de développer à fond le dessin parce que je pense sincèrement que c'est la compétence la plus importante pour un architecte, n'en déplaise à certains. Alors, c'est pas que le... Parce que le dessin, ça suppose énormément de choses. Le dessin, ça suppose déjà une bonne capacité d'observation. Et ça permet de développer une excellente capacité d'analyse. Parce que lorsqu'on dessine, on décompose ce qu'on voit par des formes simples. C'est-à-dire qu'on ne va pas commencer par dessiner par les détails. On va essayer d'interpréter les choses de la manière la plus simple possible. Et au fur et à mesure du dessin, on le complexifie et on le complexifie jusqu'à ce que ça donne le résultat qu'on veut. Et donc, apprendre à dessiner et à dessiner les bâtiments, c'est comprendre ce qu'on a devant les yeux et c'est intégrer ce qu'on a. C'est beaucoup mieux que de simplement lire des références. Donc, si vous n'êtes pas très fort en dessin, c'est pas grave. Mettez-y, enfin, dessinez 5 à 10 minutes par jour. Entraînez-vous à votre dessin. Vous en foutez si c'est moche. Il faut juste que vous, si vous voulez devenir de bons architectes, en tout cas, moi, c'est ce que je pense que c'est un des éléments fondamentaux. Il ne faut pas hésiter à dessiner tous les jours et à vous entraîner et à améliorer votre capacité d'observation. Et pour revenir à la database de The Aesthetic City, il y a plein de refs qui sont relativement intéressantes. On a le quartier du Plessis-Robinson. J'ai un avis assez, assez mitigé là-dessus parce que d'un côté, je trouve que urbainement parlant, il y a un effort qui est extrêmement notable qui a été réalisé, notamment avec les parcs et essayer de vraiment donner une dimension plus de village au lieu d'une simple banlieue avec des pavillons ou des tours en béton. Et en fait, ils ont réussi à développer une belle vie de quartier. Le problème, c'est que ça s'est gentrifié. Et surtout qu'on a en fait juste une reprise simple d'une espèce d'architecture néoclassique, c'est-à-dire qu'on a reconstruit de l'haussmannien, on a reconstruit, en fait on a pris du langage traditionnel français, mais on l'a utilisé tel quel, on n'a pas essayé de le réinterpréter ou de refaire quelque chose de nouveau avec. Mais je salue quand même l'initiative, même si ça fait un peu pastiche, parce que en fait, quand on est architecte, il ne faut pas tomber dans le piège de croire qu'on sait tout mieux que tout le monde. Alors effectivement, on a notre expertise dans la conception d'espace vivant, mais les espaces, on ne les conçoit pas pour nous, on les conçoit pour les habitants. Et le fait que les habitants préfèrent le genre d'endroit comme le Plessis-Robinson à des architectures un peu plus contemporaines, eh bien, ça devrait nous faire réfléchir. On devrait se poser des questions, je pense. Je suis pas encore, j'ai pas trouvé de réponse, en fait, encore. Je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute claire. Mais ça reste un indicatif super intéressant. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose à prendre en compte. Je ne pense pas qu'il faille regarder les gens de haut, mais bah, que le cas Plessis-Robinson devrait nous apprendre quelque chose d'intéressant. Il y a aussi la cité de Cayala au Guatemala. Il a fait une vidéo là-dessus que je vous conseille, que je trouve top. D'ailleurs, si vous voulez que je vous fasse des vidéos sur le sujet aussi, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et bah, la cité de Cayala, bah, c'était à peu près la même chose. On a reconstruit avec une architecture un peu plus traditionnelle, un peu plus locale, un peu plus vernaculaire. Et en fait, je trouve qu'au-delà de la beauté des bâtiments, on s'est surtout concentré à donner une dimension beaucoup plus humaine et beaucoup plus piétonne à la ville. C'est-à-dire que ce n'est pas que les habitants du quartier qui peuvent en profiter, mais c'est tout le monde. C'est-à-dire que c'est des espaces qui accueillent les familles, qui accueillent les enfants. On peut marcher et la voiture est à l'écart. Et ça donne une dimension un peu plus humaine, un peu plus agréable. C'est pour ça qu'on aime autant, par exemple, les médinas au Maroc, ou bien les vieilles villes en France. C'est des portions de la ville où on peut tout faire à pied, et on peut juste se balader, visiter, et on a des espaces qui sont dédiés aux piétons. On n'est pas chassé par la voiture. Aussi, dans la database Notion, il y avait beaucoup de références classiques, notamment des conférences sur la conception classique. Et en fait, il y avait tout un cours qui expliquait que les bâtiments... Alors, quand je parle de bâtiments classiques, je fais référence aux bâtiments haussmanniens, aux anciens palais, ce genre de choses. Et en fait, ce qui est super intéressant, c'est que le travail de la façade, c'est surtout sur ça que je me suis concentré, c'est un travail de composition. On a plusieurs éléments de langage, on vient les prendre et on vient composer une façade avec. C'est-à-dire que, je sais pas, on a une arche, une fenêtre, une ornementation qu'on vient placer et qu'on vient arranger de telle sorte à avoir quelque chose de beau et quelque chose d'agréable à l'œil. toujours en respectant un jeu de proportions. D'ailleurs, on retrouve souvent les proportions du nombre d'or dans ce genre de bâtiment. Et si je ne me trompe pas, le nombre d'or, c'est ce qu'on appelle aussi la proportion parfaite, qu'on retrouve partout dans la nature, que vous pouvez retrouver dans votre visage, qu'on peut retrouver dans une feuille, qu'on peut retrouver dans des fleurs, des arbres. Et en fait, c'est une proportion qui crée une forme de beauté. Une forme de beauté qui peut être considérée comme universelle. En tout cas, cette proportion nous est agréable à l'œil et nous envoie des messages. Oula, il y a des gros travaux à côté de chez moi, ça va être bien sympa cette vidéo. Et donc, dans cette database Notion, on a un maximum de recueil, d'ornementation. Et je pense que je vais... En tout cas, j'ai envie de travailler là-dessus et de construire un recueil d'ornementation arabe, en tout cas marocaine, parce que j'ai envie de me réinterpréter mon architecture. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis marocain. Et je trouve que, justement, on a une architecture qui est tellement diverse, tellement complexe, tellement... Enfin, il y en a pour tous les goûts. On a de l'architecture mauresque, on a l'architecture dans le sud du pays, on a le langage des tentes. D'ailleurs, quand je suis allé à l'exposition de Tarek Walalo et Lina Choi, justement, ils voulaient réinterpréter ce langage de la tente. Et j'y avais jamais vraiment réfléchi avant. Et je trouve que là, maintenant, ça me fait tiquer. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai aussi envie d'explorer. Et que je pense que explorer maintenant et trouver des solutions pour les moderniser, en quelque sorte, pour amener les standards de confort moderne qu'on a aujourd'hui, mais avec une architecture plus vernaculaire et plus respectueuse de son environnement, c'est quelque chose auquel... c'est quelque chose que j'aimerais atteindre, en fait. C'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et en parlant de choses qui me tiennent à cœur, je vous parle aussi de cités africaines. Je suis tombé hier sur un article extrêmement intéressant qui s'appelle « What can African cities learn from South America ?» je suis désolé pour le nom, mais c'est Mohiddin Gamel sur le site Archdaily. Je vous mettrai le lien dans la description. Et en gros, l'article était super intéressant parce qu'il pose une question valide. Si on se projette dans les 30 prochaines années à venir, l'Afrique est un continent central parce que la population va augmenter. En tout cas, les projections démographiques disent que l'Afrique représentera 28% de l'humanité dans les 30 prochaines années. Et ça veut dire que les villes africaines vont poser en fait seront une problématique centrale à ne pas oublier. Elles présentent énormément d'enjeux. Alors, on peut aller de deux manières. Soit on voit ça comme une opportunité de faire quelque chose de bien, quelque chose de plus réfléchi. Soit on fait comme on fait actuellement et comme je vois quand on va dans les banlieues de Rabat ou même Fès, on va juste construire des espèces de blocs en béton ignobles qui ne sont même pas adaptés aux gens qui vont vivre à l'intérieur, sans échelle urbaine, sans volonté urbaine. On va juste les poser comme ça, au milieu d'un terrain vague, avec deux façades aveugles, et puis pour la suite, on s'en fout. Est-ce que vous voulez ça ? Moi, je veux pas. Et ce que j'ai adoré dans cet article, c'est qu'il montrait que, justement, il y a des villes qui ont fait le choix et qui ont trouvé des solutions qui ne coûtent pas des millions d'euros. Il n'y a pas forcément besoin d'argent pour faire de belles choses. Mais sauf que faire des belles choses ou des choses simples, c'est super compliqué. Mais j'ai envie de vous parler un petit peu de justement ces villes en Amérique du Sud qui ont apparemment trouvé des solutions low-tech qui fonctionnent et qui engagent les gens et qui donnent des dimensions beaucoup plus urbaines et beaucoup plus habitables de leur ville. Alors, le premier exemple sur lequel on est tombé, c'est la ville de Curitiba au Brésil, qui avait commencé un développement accru à partir des années 60. Et l'architecte et urbaniste qui s'occupait de toute l'opération, c'était un certain Jaime Lerner. Encore une fois, je suis désolé pour les noms, je ne sais pas comment ça se prononce. Maïra, tu me diras comment ça se dira. Et en fait, l'idée, c'était pas de construire des énormes tours comme c'était à la mode à l'époque. Mais notre architecte, en fait, il avait vraiment une volonté de proposer une démarche un peu plus piétonne, notamment avec une solution toute simple. La ville ne pouvait pas se permettre d'avoir un métro. Mais on voulait quand même développer le côté piéton et permettre aux gens qui n'ont pas de voiture de pouvoir se déplacer librement dans toute la ville. Et bien là, on a pensé à installer des lignes de bus avec des voies dédiées, des stations de bus dédiées. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des stations de métro un peu partout dans la ville, on avait des stations de bus où les citoyens peuvent acheter leurs tickets et directement prendre le métro. Et ça, ça a permis de fluidifier la circulation de fou, et ça reste encore aujourd'hui un moyen de locomotion et un moyen de circulation extrêmement utilisé dans la ville. On a aussi mis en place ce qu'on appelle du Green Exchange. En gros, ils ont créé une espèce de monnaie où les habitants peuvent reçoivent en fait en échange de leur des déchets qu'ils recyclent. Et avec ces tokens, ils peuvent avoir accès à plein de choses. Ils peuvent s'acheter des tickets, des tickets de théâtre, échanger pour des prix, peut-être des réductions sur les courses. En tout cas, c'est une solution qui rend la communauté active et qui marche toujours encore aujourd'hui et franchement est super intéressante et un super moyen de sensibiliser les gens au recyclage. En fait, pas besoin de faire des campagnes à des milliers d'euros pour leur dire « Ah, le recyclage, c'est bien. » On va juste motiver les gens et leur dire « Vous voyez, si vous recyclez, nous, on peut réutiliser ces déchets-là pour en faire quelque chose de nouveau. Et en échange, vous pouvez avoir accès à plus de services publics. » Ça peut... C'est une idée comme ça, mais moi, je la trouve super intéressante. C'est quelque chose à méditer là-dessus. Et notre cher Jaime Lerner, il parle aussi d'acupuncture urbaine. En fait, l'acupuncture urbaine, pour lui, c'est plein de programmes low cost, mais qui marchent. C'est-à-dire, c'est aller au contact des citoyens, leur parler, demander c'est quoi leur problème, et essayer de mettre en place des solutions faciles, simples. Alors, c'est compliqué à trouver, mais une fois qu'on les trouve, ça fonctionne. Et c'est ça qui a fait la réussite de Curitiba. Le deuxième exemple qu'on a vu, c'est aussi avec la Colombie. Alors, si vous avez suivi Narcos, vous êtes au courant que pendant les années 80, c'était difficile, pour en dire le moins. Et en fait, il y avait une grosse problématique de réduction des inégalités et de la violence. Beaucoup de personnes étaient loin des centres de travail. Beaucoup de personnes n'avaient pas accès... Juste une pause pour vérifier que ça filme. Donc, comme je disais, il y avait un gros problème pour réduire les inégalités et les violences. Les gens étaient loin des centres, étaient loin du centre urbain. Pour aller travailler, c'était compliqué. Il y en a qui ne pouvaient pas du tout y aller. Et ça, c'était un vrai problème. Donc, comment ils l'ont résolu ? Ils sont allés parler. En fait, la ville a mis en place beaucoup de workshops d'imagination, a encouragé la participation sociale des communas, ou communas, je ne sais pas comment on le dit. Et donc, c'est avec ces échanges, avec les personnes directement concernées, qu'ils ont mis en place, je dirais, quand même quelque chose d'assez particulier. Ils ont mis en place un téléphérique pour un meilleur accès au travail. Et ce téléphérique, il marche encore énormément aujourd'hui et permet à beaucoup de personnes d'aller travailler tous les jours sans avoir besoin d'acheter une voiture. Et ça a amélioré la vie d'énormément de personnes. Et justement, ça a permis de réduire les inégalités. En tout cas, les inégalités concernant l'accès au travail. Et en fait, tout ça, tout l'objectif de l'article, c'est de mettre en valeur l'impact positif de la participation des communautés dans la conception architecturale et urbaine. Et ce que disait Gamel dans son article, c'est justement que les gens habitent là où ils habitent depuis un moment. Ils ont leurs habitudes, ils ont leurs traditions, ils ont leur mode de vie. Ok, on a suivi une formation pour ceux qui sont architectes, qui nous permet, qui nous donne les outils et la manière de réfléchir qui permet de trouver des solutions à leurs problèmes. Mais faut pas qu'on reste dans nos tours d'ivoire à faire nos jolis dessins, à faire nos conceptions, à penser des concepts parfaits dans nos têtes qui au final ne seront pas utilisés par les gens pour qui on construit. Ce qui est plus intéressant à mon avis, c'est d'aller directement leur parler, de leur poser la question, c'est quoi vos problèmes ? Au lieu d'essayer de voir sur un plan, ah oui, là il y a une route qui passe par là, la circulation doit être difficile, ok, c'est le genre de choses qu'on peut découvrir sur une carte, mais je le rappelle, on construit pour des gens, donc allons leur demander à eux, ben, qu'est-ce qui vous manque ? Et ça, ça devrait être ça, le modèle pour les futures villes africaines. Ça serait de mettre en place des workshops, d'aller au contact de la population, de comprendre comment ils vivent, de comprendre qu'est-ce qui est important pour eux. Alors, excusez-moi. Donc, de comprendre qu'est-ce qui est important pour eux, de quoi ils ont besoin, et on va pas inventer l'eau chaude. Faut juste essayer de mettre en place des solutions simples. Enfin, je sais pas. En tout cas, moi, cet article, je l'ai trouvé super intéressant et il m'a fait énormément réfléchir. Et voilà, je tenais à le partager avec vous parce que je pense que ça reste quelque chose de super intéressant à avoir. Et ça fera un reel sympa entre nous, hein, parce que ça marche bien. Hein. Enfin bon, là, c'était un peu... C'était la première partie, on va dire. Je voulais vous parler un petit peu de tout ça. Ben, peut-être que je vais... vous me direz dans les commentaires, mais peut-être que je vais rendre cet épisode du... Finalement, c'est plutôt sympa de vous parler directement comme ça, de manière lente, et pas avoir à monter une vidéo comme ça. Et peut-être que je vous ferai un petit thème à chaque fois, un petit peu réponse à vos questions, peut-être une fois par mois, où je viens, je prends vos questions, je vous partage des articles que j'ai lus, ce que j'ai appris ces dernières semaines, des choses comme ça. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et passons à la suite, parce que si je vous ai promis une chose dans mon réel, c'est de vous expliquer pourquoi l'architecture c'était moche aujourd'hui, parce que je pense qu'effectivement dans sa grande majorité l'architecture aujourd'hui c'est moche, mais je veux quand même apporter un peu plus de nuance à ce propos-là, parce que je pense pas que tout est à jeter, et je pense qu'on est loin du fait que tout est à jeter. Je pense qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont incroyables en architecture, mais qu'on a perdu de vue quelque chose, je dirais. Et j'aimerais justement qu'on parle un peu plus de ça. Donc ce que je vais faire là, c'est que je vais prendre vos commentaires, il y en a 50, sur mon dernier reel, et ben on va répondre à peu près à vos questions. Alors, je vais quand même dire vos noms, parce que je pense que si vous avez commenté là-dessus, c'est que vous n'avez aucun problème à être en public. Mais si jamais pour les prochaines vous voulez pas que je dise votre nom, juste précisez-le en commentaire et on dira pas vos noms. Donc la première question c'est de Antze Thomas qui dit pour toi, est-ce que le design est quelque chose de praticable et peut s'améliorer ou avoir des meilleures capacités en tant que designer ou pour la conceptualisation ou bien est-ce que c'est un talent avec lequel on est? Bah super la lecture pour moi, mais je trouve que c'est une question qui est hyper importante parce que je pense qu'on est tous avec un certain degré de talent. Il y a des gens qui ont des facilités dans certains domaines et d'autres qui n'en ont pas. Et donc on a tous des forces et des faiblesses. Mais si c'était que ça, personne pourrait devenir architecte ou personne pourrait devenir rien du tout en fait. Je pense que la conception, le design, la conceptualisation, il y a un certain degré de talent, c'est sûr, mais c'est une grande partie de travail. C'est-à-dire que tu peux pas... La conception, c'est pas quelque chose que tu inventes de ta tête comme ça. Et d'ailleurs, la créativité, je pense que c'est pas quelque chose que tu inventes comme ça. La créativité, c'est à quel point tu arrives à associer plusieurs références. Et ton degré de créativité, c'est à quel point c'est incongru, à quel point c'est efficace, est-ce que tu as trouvé une nouvelle association. Et donc, pour moi, la conception, ben écoute, dans mes premières années d'archi, j'étais vraiment pas très fort en conception, j'avais vraiment des idées qui étaient pas ouf. Et bah ça, je l'ai appris à mes dépens, parce que j'ai dû redoubler ma première année d'architecture. Et ça, ça a été une énorme leçon pour moi. Parce que j'arrivais en France, que j'avais pas les bagages, j'avais pas les bagages pour comprendre ce qu'était la conception architecturale à la française, que j'avais encore un langage un peu trop marocain pour l'enseignement français. Et il a fallu que je m'adapte. Et il a fallu que je devienne meilleur aussi. Et pour devenir meilleur, ben ça a été très simple. Ça a été très simple. Ça a pris du temps. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu des magazines. J'ai cherché à me créer une culture architecturale parce que c'est ce qui me faisait défaut. Je connaissais pas les noms actuels. Je connaissais rien. Donc, comment est-ce que j'étais censé faire de l'architecture? Et donc, au fur et à mesure des choses, ben j'ai fait de ma faiblesse une force. J'ai écumé. En fait, j'ai créé une curiosité autour de l'architecture. Maintenant, c'est devenu quasiment un réflexe pour moi de lire des articles comme celui que je vous ai présenté, et c'est devenu pour moi mandataire. Quand je commence un projet, ben j'ai tout de suite dans ma tête un cercle de références dans lequel je peux piocher. Je compose avec mes références. Et donc pour moi, le design, c'est quelque chose, comme tu le dis Thomas, le design, c'est quelque chose de vraiment praticable et que tu peux améliorer. On ne naît pas juste avec un degré de compétence qu'on ne peut jamais augmenter. Sinon, bah, je ne serais pas là aujourd'hui à vous parler d'architecture dans un podcast. Je ne savais même pas comment on faisait pour monter il y a quelques mois. Alors, on passe à la prochaine question. La prochaine question de BPI. Quels sont les conseils que tu donnerais à un étudiant en architecture? Alors, je vais me répéter, mais lis. J'ai fait un réel à ce sujet pour savoir comment s'améliorer en architecture. Je pense que tiens un carnet de dessin, dessine tous les jours ce que tu vois. Tu t'en fous de si c'est beau, si c'est moche, tu fais des croquis de 5 minutes. Enfin, rends ça fun. Essaye et dessine ce que tu veux, genre pas forcément des bâtiments, mais dessine. Il faut que tu apprennes à ce que le stylo devienne une extension de ta main. Il faut vraiment que tu comprennes comment réfléchir avec le dessin et comment communiquer avec le dessin. Ça, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes. De deux, comme je disais tout à l'heure, crée-toi une culture architecturale. Tu ne peux pas inventer les choses de zéro. Il faut que tu te crées une database dans ta tête dans laquelle tu peux piocher, et c'est ce qui te permettra d'avoir des supers idées. Et dans le doute, il y a un bouquin que je vous conseille qui s'appelle « Still like an artist ». Je vous mettrai le lien dans la description. Et il faut faire exactement comme dit le titre, il faut voler comme un artiste. Il y a des choses qui sont excellentes, qui ont déjà été faites. Ben, on ne va pas réinventer la roue, on va prendre ce qui a été bien et on essaye de l'adapter et le transformer à notre sauce. C'est ça pour moi la créativité. Et si vous n'êtes pas d'accord, ben, faites-le moi savoir dans les commentaires. Alors, le deuxième commentaire, toujours de Bépili. Quels sont les plus grands changements que tu as vus entre la fin de tes études et le début de ta vie active dans un cabinet? Alors ça, mon cher ami, j'en ai vu pas mal. Alors, je m'attendais à ce que le passage des études et du cabinet soit horrible. Je m'attendais à ce que ce soit terrible, à ce qu'il y ait zéro créativité, qu'on soit victime de notre profession. Enfin, j'avais une vision très négative du travail en agence. Et puis, en fait, j'ai fait des tonnes de stages et il s'est avéré que, ben non, en fait. La plus grande différence, c'est que tu choisis pas tes projets comme... d'une certaine manière, c'est, quand tu es chef d'agence, j'imagine que tu choisis tes projets, mais tu es en compétition pour pouvoir travailler dessus. Pendant les études, tu es plutôt libre, tu n'as pas de limite de budget, tu dois pas travailler avec un maître d'ouvrage, tu dois pas répondre à un cahier des charges, enfin... Disons que tu as une certaine liberté qui est quand même relativement énorme, et c'est normal parce que tu débutes dans la conception. Et en fait, quand je suis arrivé en agence, ben là, c'était totalement différent. Déjà, on travaille en équipe tout le temps, parce que tout seul, on n'arrivera à rien. Chacun a plus ou moins sa spécialité. On essaye de mettre en place, en fait, chaque agence a sa manière de travailler. Il y en a où c'est plus l'architecte maître qui vient et qui te dicte ses commandes, Enfin, c'est lui qui conçoit tout de A à Z et toi, tu exécutes. C'est le cas dans mon agence actuellement, même si, pour être honnête, il s'attend à ce qu'on... Il laisse beaucoup de créativité dans l'exécution. Et donc, tu trouves de la créativité là où tu peux. C'est-à-dire, lorsque je dois modéliser des propositions en 3D, bah là, je fais de la conception. Là, je peux proposer des variantes. On me donne une direction générale, mais après, qu'est-ce que va donner la direction générale? Ben, c'est à moi de le faire. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait lorsque j'ai travaillé sur la Biennale de Venise de 2025, qu'on a gagné chez Jacob et McFarlane. Ben, mon patron me donnait des directives. L'idée principale, c'est lui. Les détails, c'est lui. Et mon travail, c'était d'exécuter sa vision et de proposer énormément de variantes. Et donc, je dirais, la plus grande différence, c'est quand même l'aspect social où tu dois travailler avec des ingénieurs, tu dois travailler avec des commerciales ou des commerciaux, je sais pas comment, enfin bref, des commerciaux. Et en fait, tu ne réponds pas qu'à toi-même, mais tu réponds à plein de gens. Et tu te rends compte vraiment du service que tu donnes. Il faut apprendre à se battre, faire valoir ses droits. Et tu comprends en fait la portée sociale de l'architecture parce que tu ne fais pas le projet pour toi, pour ton bénéfice, mais tu fais le projet pour quelqu'un d'autre. Alors, j'espère que j'ai pu répondre un petit peu à ta question, ou tes questions. Alors, on a Quentin Lebec. Est-ce que, selon toi, l'architecture n'est-elle pas en train de perdre beaucoup de potentiel d'expression en se restreignant à la sobriété des bâtiments, avec des couleurs unies, souvent noires ou grises, peu de relief et de détails ornementaux? Alors, c'est compliqué. Ah, je sens que je vais dire beaucoup de bêtises là, mais... Alors, oui, on perd beaucoup en potentiel d'expression. Et je dirais que c'est pas forcément la faute des architectes. Mais après, c'est pas forcément la faute à quelqu'un directement. Parce que En fait, construire un bâtiment, c'est déjà un miracle qu'un bâtiment soit construit. Si vous suivez un petit peu l'actualité architecturale, avec le RUM 19 qui est passé il y a quelques années, en fait, il y a beaucoup de projets qui ont été stoppés net du jour au lendemain. Des projets qui étaient faits, hein, réalisés, les plans d'exécution de détails, tout était là. Et en fait, bah d'un coup, il n'y a plus de financement et on dit, bah ouais, mais on ne va pas construire, t'es bien gentil mon coco, mais casse-toi. Donc, déjà, c'est très compliqué de faire sortir un bâtiment. Et en fait, la plupart du temps, quand tu es sur des logements sociaux et que tu as un budget extrêmement restreint, et ben la majorité de la qualité, tu veux la mettre dans la conception intérieure. Tu veux faire des appartements qui sont bah, qui respectent leurs propriétaires et qui donnent le plus de valeur pour le prix. Et forcément, bah, le budget, il passe vraiment là-dedans. Et en fait, sur la façade, tu n'as plus de budget et tu ne peux presque plus rien faire. Donc, ça, c'est assez compliqué d'avoir de l'ornementation, d'avoir des détails, d'avoir une architecture complexe comme on a vu avant. Parce qu'il faut aussi se dire qu'on a un certain biais de beauté. On a le biais du survivant. L'architecture belle des anciens temps qu'on voit aujourd'hui, c'est l'architecture qui a survécu. On ne voit pas les bâtiments moches de l'époque qui ont été détruits. Et il faut savoir, et donc c'est un peu compliqué de savoir où on se place. Mais pour autant, et là c'est mon côté jeune et naïf qui parle, je trouve que ce n'est pas une excuse. Parce que ce que j'ai appris pendant mes études, c'est que bah, tu peux tout faire en architecture. Et aujourd'hui, on est capable de tout faire. Et je pense même qu'on serait surpris d'à quel point l'ornementation serait peu chère. En tout cas, je sais qu'il y a certains bâtiments au Maroc, on appelle des artisans qui viennent tailler dans du plâtre, tu vois, c'est même pas un bâtiment noble, des motifs, et pour faire des mouches à rabier. Et ça donne tout de suite plus d'âme au bâtiment, mais ça n'a pas forcément coûté plus cher que de simplement couler une dalle en béton. Donc je pense qu'on a des compromis à trouver, des solutions à trouver pour essayer de ramener un peu plus de détails dedans. Et en fait, il y a des exemples aujourd'hui d'ornementation contemporaine. Il y a pas mal, enfin, le musée de Rabat, le musée national de Rabat, par exemple, où tu as une façade qui est en double peau avec beaucoup de mouches à rabier. Tu as aussi certains des bâtiments de Mars Architectes où ils ont dessiné sur la pierre. Donc, en fait, il faudrait qu'on trouve une solution pour aller au-delà du simple bâtiment uni, super fonctionnel. Parce que je pense que c'est pas... C'est, comme je vous l'expliquais dans ma vidéo précédente, ces bâtiments-là, c'est les bâtiments qui causent notre malheur. En fait, habiter dans une boîte, la boîte, elle peut être super bien conçue. Si la façade est pauvre, ben, ça donne pas envie d'habiter là-dedans. Et forcément, on associe son image à un bâtiment uni, modeste, qui ne crie pas. Enfin, j'aime, en fait, le jour où j'aurai mon agence, ben, je veux vraiment travailler à trouver des solutions. Là, je suis, la phase actuelle de ma vie, c'est vraiment phase apprentissage. Je prends ce que je peux, j'apprends énormément parce que je suis un bébé architecte actuellement. Mais j'ai pas envie de perdre mes idéaux. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire avec la renaissance de l'ornementation. Trouver comment réinterpréter le langage architectural plus classique sans pour autant jeter tous les bénéfices de l'architecture contemporaine. Parce qu'il y en a des bénéfices, et il y en a énormément. Ne serait-ce que la conception des appartements. On est devenu des pros dans l'optimisation des espaces. Maintenant, il s'agirait d'allier le meilleur des deux mondes. Parce qu'il ne s'agit pas de faire comme Star Wars 8 et cracher sur son héritage. Il faut savoir jouer avec les deux. On prend un peu de notre histoire, un peu des leçons contemporaines, on les mixe ensemble, et ça peut donner un résultat merveilleux. En tout cas, c'est ce en quoi je crois. Pour la prochaine question, on a Zakaria Saidi. La perception de la beauté est subjective. Qu'est-ce qui vous fait penser que l'architecture d'aujourd'hui est moche? Alors, mon cher Zakaria, moi, je ne pense pas que la beauté soit subjective. Ouais, je pense que la beauté, il y a une beauté mathématique, une beauté liée aux proportions, qui est universelle. C'est ce que j'ai appris quand, à un moment, d'ailleurs mes potes se foutaient de ma gueule quand je parlais de ça, mais à un moment, je faisais une fixette sur le nombre d'or et comment il était utilisé dans les proportions des fenêtres, dans les proportions des bâtiments et des façades. Et c'est des proportions qu'on retrouve partout dans les architectures vernaculaires, les architectures un peu plus classiques. Et c'est une beauté qui nous touche tous. Et quand on est un touriste et qu'on va dans un pays, ce qu'on veut voir, ce n'est pas les bâtiments contemporains, sauf bâtiments exceptionnels, bâtiments stars, comme les musées Guggenheim, les œuvres de Big et de Zaha Hadid, par exemple. Bah, c'est, par exemple, les gens, quand ils vont en Europe, qu'est-ce qu'ils veulent voir? C'est les vieilles villes. Les gens, quand ils viennent au Maroc en voyage, ils ne veulent, veulent pas voir des bâtiments modernes, ni contemporains. Les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est du tridi, c'est du traditionnel. Ils veulent aller dans les médinas. Pourquoi Marrakech, c'est aussi populaire? Les gens, ils vont à Jemaa el Fna. Ils veulent voir comment c'est. Ils veulent habiter dans des riades. Et pourquoi c'est que les étrangers qui veulent des traditions, alors que nous, on veut que de la modernité? Pourquoi on ne se réapproprie pas notre culture? Et qu'est-ce qui me fait penser que l'architecture aujourd'hui, c'est moche? Alors, je ne pense pas que l'architecture d'aujourd'hui est moche, mais je pense quand même qu'on a une médiocrité dans la plupart des bâtiments de promoteurs qui ne sont pas de l'ordre des architectes. Hein. C'est pas à cause des architectes. Moi, je pense que quand on voit les travaux d'étudiants, bah, on a vraiment des projets qui sont extrêmement beaux et extrêmement vertueux. Mais ceux qui décident, c'est ceux qui ont l'argent. Et ceux qui ont l'argent, bah, des fois, ils veulent juste de l'optimisation à 400%, construire un bâtiment qui ne va même pas tenir 50 ans. Et la forme la plus facile et la plus réutilisable, c'est le carré. On peut foutre ça partout. Et puis voilà, et ça fait des villes moches. Parce qu'il n'y a pas de pensée urbaine. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est la réponse que tu attendais, Zakaria, mais c'est celle que j'ai. Yazid Kessi nous dit, est-ce que l'architecture existe? Est-ce que nous existons? Est-ce que tout ceci est réel? Est-ce que nous faisons partie de la matrice? Vous le saurez dans le prochain épisode de Dragon Ball Z. Enfin bon. Alors, Roméo Kodak qui dit « Quant à des architectes qui disent qu'un architecte n'est pas un artiste, c'est déjà un problème. » Alors, oui. Et c'est même quelque chose avec lequel j'ai encore du mal, en fait. disons que au Maroc, ce qui est vraiment valorisé, et à raison, c'est les sciences. Et en tout cas, dans mon entourage au lycée, la dénomination d'artiste était quelque peu mal vue. Et là, je vais juste parler de mon ressenti personnel, hein, parce que je ne peux pas vraiment parler pour les autres. Mais quand on me disait que j'étais un artiste, ben pendant très longtemps, je le prenais mal. Parce que j'ai l'impression qu'on réduisait mon rôle à quelqu'un de passif, de contemplatif, qui n'a pas un réel impact sur les choses. Et je pensais que l'architecture, c'était quelque chose de beaucoup plus. Et effectivement, l'architecture, c'est énormément de choses. C'est l'alliage de la science avec l'art. C'est le noble art. Et forcément, il y a un aspect scientifique dedans. Je m'enorgueillais de cet aspect scientifique parce que pour moi, c'était pour me dire « Ah, bah, je suis un scientifique, les gens vont me respecter. » Mais en fait, les gens, on n'en a rien à foutre de leur avis. On n'en a rien à foutre. Et donc, un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui va au bout de son art. C'est quelqu'un qui travaille chaque jour à s'améliorer, chaque jour à s'exprimer et qui se développe jusqu'à ce que son travail soit considéré comme de l'art. Et l'art, en tout cas l'art auquel j'aspire, met tout le monde d'accord, mais aussi dérange certains. Quand vous faites quelque chose, n'essayez pas d'être conciliant. Ça, c'est l'erreur que j'ai fait beaucoup trop de fois, parce que quand vous êtes conciliant, vous ne choquez personne, mais vous ne plaisez à personne non plus. Vous êtes juste le statu quo. Et statu quo, c'est ennuyant, c'est barbant. Difficile de ne pas dire de gros mots là, parce que là, j'ai envie d'en dire. Et ça fait peur de... Bah déjà, moi, déjà rien que de tourner ce podcast, pour être honnête avec vous, bah, ça me terrifie un peu, parce que je me dis, je suis personne. Des gens ont choisi de me suivre sur Instagram, et c'est trop bien. Je suis trop content, merci énormément les amis. Mais je suis en train de me poser la question, qu'est-ce que je vais vous apporter? Et en fait, si on écoute ces petites voix, bah, on va rien faire. Et c'est peut-être ce que je veux que vous reteniez de ce premier épisode, c'est que faut oser faire les choses et faire les choses qui dérangent. Alors, faut pas déranger pour déranger, mais quand on a peur de faire quelque chose, par exemple quand vous avez un projet que vous dites « Ah putain, je veux trop faire ça, mais ça se trouve le prof il va détester, il va mettre une note nulle et tout, je vais plus faire l'option safe et faire ça. » Ou dans un concours, ah, le jury s'attend à ce que je fasse ci, ça, ça, ça. Bah, c'est un truc que j'ai appris chez Jacob et McFarlane, c'est qu'on n'a rien à faire de la vie du jury. On a un cahier des charges, tant qu'on le respecte, il faut qu'on teste nos idées les plus folles. Même si elles ont l'air d'avoir aucun sens, il faut les tester et il faut aller au bout des choses. Il faut faire les choses auxquelles on croit. Il ne faut pas s'arrêter à n'importe quoi. Faut pas se dire « Ah non, mais il va pas aimer, il va pas... » On s'en fout. On s'en fout. Parce que si tu vas au bout de tes idées, bah forcément, il y a des gens qui vont finir par aimer ce que tu fais. Des gens qui vont vraiment profondément s'identifier à ton message. Et c'est ce que je commence à expérimenter parce que j'ai sorti mes reels, ça m'a fait peur. Je fais mes vidéos, ça me faisait peur de les sortir, d'être ridicule, de tout ça. Et au final, il y a des gens qui sont tombés dessus, des gens qui ont adoré, des gens qui étaient d'accord et des gens qui n'étaient pas d'accord. Mais c'est ça qui était intéressant. Ces gens qui n'étaient pas d'accord, bah, ils sont venus et on a eu une discussion. On a parlé. Et on est ressortis grandis tous les deux parce que le principe d'une discussion, c'est justement de pouvoir confronter des avis différents et de pouvoir aller quelque part. D'ailleurs, attendez, je vais voir si ça filme parce que j'aimerais bien être à la caméra pour ce passage-là.
laisse ça filme.
Donc je vous disais, il y a un commentaire d'une personne qui n'était pas du tout d'accord avec moi quand je disais que le dessin c'était la compétence la plus importante d'un architecte. C'était Ange Aube. Alors, je vais vous lire son commentaire parce que je le trouve vraiment intéressant. Et je vais vous lire mes réponses et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, Ange me disait, si tu t'adresses aux personnes qui s'interrogent sur leurs études ou reconversion en architecture, ok. Mais je trouve réducteur de dire que le dessin est la compétence la plus importante. Ce n'est qu'un moyen de communiquer, mais ça ne fait pas de quelqu'un de compétent en architecture. Loin de là. Le dessin permet de développer une certaine sensibilité sur les choses et le monde, c'est un atout, oui, mais il ne faut pas obstruer d'autres aspects plus importants encore. Avoir des idées, nourries par une forte curiosité, de l'altruisme, avoir une capacité d'analyse, et bien d'autres encore. Malgré tout, je soutiens cette approche et façon de rendre l'architecture abordable et accessible. Je pense juste qu'elle mérite d'être étoffée pour rendre compte de façon concrète sur ce qu'est l'architecture et le métier d'architecte. Bonne continuation à toi. Eh bien, c'est un commentaire qui a énormément résonné avec les gens et que je comprends aussi. Le problème des réels, c'est qu'on ne peut pas vraiment étoffer son propos. C'est un format qui est fait pour dire des choses impactantes et survoler les choses, donner des éléments. Et comme je l'ai expliqué au début, je maintiens que le dessin est vraiment l'une des compétences les plus importantes de l'architecte parce que si tu dis que ce n'est qu'un outil de communication, c'est plus que ça, parce que les capacités d'analyse, elles rentrent avec le dessin. Moi, j'apprends énormément par le dessin. J'apprends vraiment à analyser avec le dessin. Quand je regarde un bâtiment et que je veux savoir comment il est fait, je cherche à le dessiner, parce que tout de suite, j'ai quelque chose de concret entre les mains. Et oui, je veux rendre l'architecture abordable, parce que je pense que faire comprendre aux gens ce qu'est le métier d'architecte, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que la plupart des gens auxquels tu parles ont beaucoup de préconceptions, de préavis là-dessus. Et l'architecture, pour moi, devrait être accessible à tous. Et la communication, pour moi, aujourd'hui, elle est fondamentale parce que si tu ne sais pas dessiner, si tu ne sais pas communiquer tes idées, tes idées, elles servent à rien. Et si tu peux faire les meilleurs projets du monde si tu ne sais pas les dessiner. Et par le dessin, j'entends plein de choses, c'est-à-dire dessiner sur les logiciels d'AutoCAD, Revit, tout ça, avoir une représentation de plan claire et précise, des images magnifiques ou des dessins magnifiques. Si tu ne sais pas faire tout ça, tes idées, elles ne servent à rien. Je suis désolé de te le dire, mais personne ne va les comprendre. Quoi, tu vas leur dire quoi faire ? Non ? Non, je ne pense pas. Mais je sais pas, c'est peut-être ma naïveté qui parle, tu sais peut-être plus de choses que moi là-dessus, mais je pense vraiment que, en tout cas moi, le dessin a été et est fondamental dans ma pratique de l'architecture. Je ne peux pas concevoir un bâtiment ou réfléchir sans dessiner, c'est impossible. Et puis quand on est avec un maître d'ouvrage ou des clients ou n'importe quoi, c'est tellement plus rapide de poser une feuille et de dessiner les détails devant lui. Enfin, l'autre jour, on était en réunion avec un fabricant de baies vitrées et on avait un détail relativement spécifique à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a fait ? On lui a montré la 3D, on lui a montré les plans, mais tout de suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à dessiner avec lui. Et très très vite, plus rapide que la 3D, plus rapide que tout, on a trouvé une solution. Pour moi, la communication, c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit se concentrer à fond. Pas aux dépens d'autres choses, parce qu'un architecte, c'est pas que le dessin. C'est bien plus. Et effectivement, la curiosité, c'est extrêmement important. L'altruisme aussi. La capacité d'analyse énormément. Donc, c'est tout ça qu'il faut développer. Il faut être un généraliste. Il faut avoir une vision globale, mais savoir aller dans le détail. Et c'est des choses qui sont extrêmement compliquées et qui prennent du temps. Si vous n'y êtes pas aujourd'hui encore, c'est pas grave. Vous y serez demain, chaque jour, un peu plus. Chaque jour, on cherche à être meilleur. Et je pense que ça commence à se voir si la caméra elle est toujours là. Mais je commence à fatiguer un petit peu. Il fait chaud, on est en été, j'ai soif. Il faut boire, les amis, il faut boire. Et je commence à divaguer, je pense. Mais en tout cas, c'était le premier épisode solo de mon podcast. Finalement, j'aime bien. Ça me permet de réfléchir un peu à voix haute et d'engager la discussion un peu avec vous. J'en ferai des réels de certaines parties, mais j'aimerais vraiment... En tout cas, je vais tout faire pour que le podcast soit disponible sur Spotify et Apple Podcast. Normalement, au moment où celui-là sortira, tous les épisodes seront disponibles. Donc, je vous invite à me suivre là-dessus. Et bien sûr, à vous abonner et mettre 5 étoiles. je commence à demander ce genre de choses, moi. J'espère que je vous aurai appris des choses. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à débattre avec moi en commentaire. En fait, j'adore ce genre de discussion. Et vraiment, le commentaire d'Ange est un de mes commentaires préférés. Donc, merci beaucoup pour ton commentaire. Et c'est tout pour moi, les amis. Encore merci d'être aussi nombreux à me suivre. J'espère qu'on construira quelque chose de magique ensemble. Vivons pour l'amour de l'architecture. C'est tout ce que j'ai à dire. Et à la prochaine. Ciao.